Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
La Syrie toujours au cœur de l'actualité ce jeudi. Les ambassadeurs près le Saint-Siège se sont réunis pour se faire expliquer la position du Vatican sur la crise syrienne. Dans le même temps, le pape François a envoyé un message au président russe Vladimir Poutine alors que s'est ouvert ce jeudi le sommet des pays du G20. Un message fort dans lequel il demande aux puissances réunies de tout faire pour ne pas aggraver la situation en Syrie. La paix passe d'abord par une culture qui se diffuse dans la famille. C'est ce que nous dira aussi Mgr Paglia, le président du Conseil pontifical pour la famille. Et puis le pape a reçu le métropolite de l'église Syro-Malankar en Inde, l'occasion d'évoquer une église méconnue en dialogue avec Rome. Soyez les bienvenus dans ce magazine. À l'heure où tous les regards sont tournés vers la Syrie, le Saint-Siège multiplie les initiatives et poursuit sa mobilisation pour promouvoir une sortie de crise. Ce jeudi matin, le Vatican a tenu à expliquer sa position aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège lors d'un briefing organisé par la secrétaire d'État. 71 ambassadeurs avaient répondu à l'invitation, autrement dit pratiquement la totalité des ambassadeurs résidant à Rome, pour cette réunion dont le but était d'expliquer la position du pape et les initiatives prises par le Vatican dans ce dossier syrien afin de favoriser la paix et d'éviter toute intervention armée dans le pays. Une réunion très riche présidée par Mgr Dominique Mamberti, le secrétaire pour les relations avec les États. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Il faut que tous les partis impliqués dans le conflit reprennent le dialogue, surtout pour la réconciliation du peuple syrien. Il faut préserver l'unité du pays, éviter que des zones se constituent pour les diverses composantes de la société. En d'autres termes, éviter que le pays se fracture. Enfin, et c'est la conséquence des deux premiers points, il est nécessaire de garantir l'intégrité territoriale de la Syrie. C'est la ligne du Vatican présentée par le secrétaire pour les rapports avec les États. Mgr Mamberti veut des garanties, notamment que dans la Syrie de demain, il y ait de la place pour tous, en particulier pour les minorités, les chrétiens inclus. Le prélat a aussi mis en garde contre les groupes terroristes présents en Syrie, une présence croissante. Le chef de la diplomatie vaticane appelle la population et les groupes d'opposition à prendre de la distance avec ces groupes, à les isoler et enfin à s'opposer clairement au terrorisme. La crainte du Vatican et bien sûr du pape François, ce sont les conséquences de la violence croissante dans le pays. Une violence qui risque d'impliquer non seulement les pays de la région, mais qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles dans diverses parties du monde. Des inquiétudes aussi en particulier pour les conséquences de l'utilisation possible d'armes chimiques. Sans oublier enfin l'assistance humanitaire, une urgence pour Mgr Mamberti.
Les conflits armés, ce sont toujours la négation délibérée de toute possible entente internationale. Autre événement de ce jeudi, c'est le message que le pape a envoyé au président russe Vladimir Poutine. Le souverain pontife a profité de l'ouverture du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg pour interpeller les dirigeants de la communauté internationale sur la crise syrienne, dénonçant des conflits armés qui créent de profondes divisions et de terribles blessures qui mettent des années à se refermer. Jean-Baptiste Cocagne.
Faire la guerre, c'est refuser de respecter les grands buts économiques et sociaux fixés par la communauté internationale. À travers Vladimir Poutine, le pape François s'adresse à tout le G20, au groupe des 20 plus grandes économies du monde, selon ses propres termes. Alors comment cette économie mondiale pourra se développer réellement ? Quand elle sera en mesure de permettre une vie digne à tout être humain, répond le pape. Dans cette perspective, les conflits armés n'ont donc pas leur place. Pour François, sans la paix, aucun développement économique n'est possible. Avec cette lettre, le pape invite les 20 puissances mondiales à réfléchir à la situation au Moyen-Orient et en particulier en Syrie. Il leur demande de ne pas rester sans réaction face à ce drame, de dépasser leurs divergences, mais le pape insiste, ils doivent abandonner toute solution militaire. Pour François, il faut donc favoriser une solution pacifique qui passe à travers le dialogue et la négociation avec le soutien de la communauté internationale. Pour l'heure, affirme le pape, trop d'intérêts partisans ont primé depuis que le conflit syrien a commencé et ces intérêts ont empêché de trouver une solution qui puisse éviter le massacre inutile auquel on assiste.
Samedi, vous le savez, tous les croyants et non-croyants sont invités par le pape à observer une journée de jeûne et de prière pour la paix, en particulier en Syrie. À cette occasion, toute l'église est mobilisée, d'autant qu'une veillée de prière aura lieu place Saint-Pierre samedi soir en compagnie du pape. Une veillée où il sera fait une large place à la prière silencieuse et à l'adoration eucharistique. Le Conseil pontifical pour la famille a lui publié un texte de Mgr Paglia, son président, demandant aux parents de proposer un repas simple et sobre pour expliquer ce qui se passe à travers le monde et pourquoi tous ces événements tragiques ne peuvent pas nous laisser indifférents. Mgr Paglia qui conseille également d'inviter les grands-parents et les personnes âgées à ce repas pauvre en nourriture mais riche en paroles. Il explique aux enfants qu'il ne faut pas se plaindre s'ils ne trouvent pas sur la table une nourriture abondante. Le président du dicastère qui exhorte enfin tous les membres de la famille à prier pour les familles de Syrie, pour les enfants qui meurent chaque jour en raison de la haine et de la famille, pour les gouvernants appelés à trouver le chemin de la paix et de la non-violence. Mgr Vincenzo Paglia qui revient sur le sens de cet appel au micro de Xavier Sartre.
Faire arriver le message du pape François à la table des familles du monde, à partir évidemment des familles catholiques, chrétiennes, etc. L'engagement pour la paix, ce n'est pas seulement une question de la politique ou de ceux qui sont au-dedans des affaires. La paix, c'est exactement une affaire qui concerne tout le monde. Et je voulais souligner que cette fois, les enfants, comme les personnes âgées, peuvent se réunir autour de la table. Et j'espère que dans ces familles, les personnes âgées, que peut-être ont participé ou ont vu avec ses yeux le drame du conflit, puissent parler aux enfants de la tragédie que signifie chaque guerre et chaque conflit. Et alors, faire un moment de réflexion tous ensemble autour de la table avec un geste qui est aussi un peu de pénitence, je crois que peut être un témoignage de solidarité et un engagement pour la paix. Et naturellement, avant tout, pour les croyants, une prière au bon Dieu qui est Père de tous les peuples.
C'est si important que cela, selon vous, de parler de la guerre aux enfants?
C'est nécessaire d'expliquer ce qui arrive. Avant tout parce qu'il vit ce qui arrive dans les pays du monde. La télé, les quotidiennes, etc. sont pleins des images de guerre. Et alors c'est nécessaire que les enfants puissent comprendre la tragédie, pour éviter que ces images puissent suggérer une chose lointaine, une chose que ne me regarde pas. Non, c'est nécessaire que tout le monde puisse se confronter avec ces drames qui font souffrir millions et millions d'enfants. Comme nous pouvons éviter d'expliquer aux enfants que du moment qu'il voit des autres enfants blessés par la violence et par la guerre.
En quoi la famille, selon vous, est-elle un lieu privilégié d'éducation à la paix?
Le magistère de l'Église montre à la société même que la paix, qui n'est pas absence de guerre, la paix comme plus, est la capacité d'être ensemble entre personnes qui sont différentes entre elles, bien, la famille, c'est le premier lieu où nous tous apprenons à bâtir la paix, c'est-à-dire à créer un lieu où le jeune et le plus âgé, les hommes et les femmes, ceux qui sont en santé, ceux qui sont malades, peuvent être ensemble en solidarité et en se soutenant les uns les autres. Cette manière de vivre souligne ce qu'est la paix. Et c'est pour ça que la famille, c'est le génome de la paix. La famille a inscrit en ses chromosomes la génie de la paix. C'est pour ça que c'est absolument nécessaire que la famille puisse être la première école pour la paix entre les hommes et les femmes.
Sur le terrain, la situation est toujours très difficile. Les combats incessants se poursuivent entre les forces du régime syrien et la rébellion. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Georges Aboud. Il est libanais, curé grec catholique melkite de la paroisse Saint-Cyril dans le quartier de Kassaa à Damas. Il est actuellement en Suisse à l'invitation de l'aide à l'église en détresse. Le père Aboud est interrogé par Manuela Afidji.
Les gens vivent encore leur vie, mais toujours avec des risques. Et avec le risque qu'il y a des bombes, qu'il y a des voitures piégées, et c'est toujours le risque est toujours là. Et quand il y a des combats près du quartier, quelquefois des bombes, des canons tombe chez nous, alors les gens se réfugient dans les maisons, dans leurs appartements. Mais d'autre part, ils vont à leur travail, ils cherchent leur nourriture et ils doivent continuer à vivre, ils cherchent à continuer à vivre.
Quel est le sentiment des Syriens face à cette menace d'intervention militaire ?
Les Syriens refusent toute intervention comme invasion dans leur pays. Nous vivons une ambiance de guerre. Alors déjà, cette intervention, ça fait endurcir la situation, faire la situation plus grave.
Alors, le pape François a appelé ce samedi à une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Comment cette initiative est-elle perçue par les chrétiens et les musulmans en Syrie ?
C'est perçu tellement avec un grand remerciement pour le pape, avec une grande joie de foi, une joie chrétienne, c'est-à-dire toute l'Église entière est prie pour la Syrie et surtout encore pour l'Église en Syrie et tout au Moyen-Orient, parce que encore la Syrie fait partie de la Terre Sainte où les chrétiens sont nommés pour la première fois chrétienne et où Saint Paul était à Damas, sa conversion s'est passée à Damas. Et alors nous sentons une grande solidarité de la part de nos confrères chrétiens dans tout le monde de prier avec nous pour que la paix règne dans notre pays et dans tout le Moyen-Orient.
Pour en savoir plus sur toutes nos informations concernant cette crise syrienne et le Saint-Siège, je vous renvoie à notre site internet www.radiovaticana.va.
جوابك أيتها العذراء الطيبة ألتمسه أنا آدم أبوك بدموع أنا المنفي من الفردوس مع ذرية المسكينة يا ابنتي.
Un nouvel évêque à Coutances, en Normandie, le pape a nommé ce jeudi le père Laurent Le Boulc à la tête de cet évêché. Issu du diocèse de Saint-Brieuc, le père Le Boulc est né en 1960, il a été ordonné prêtre en 1988. Ancien vicaire de la cathédrale de Saint-Brieuc, il s'est notamment occupé de la pastorale des jeunes. Curé à Lannion depuis 2005, le père Le Boulc était également responsable de la pastorale des écoles catholiques du diocèse de Saint-Brieuc. Depuis l'installation de Mgr Stanislas Lalanne comme évêque de Pontoise le 6 avril dernier, l'évêché de Coutances et Avranches était dirigé par un administrateur diocésain, le père Michel Leblanc.
Hunger is for love, for the word of God. Nakedness is not only for a piece of cloth.
Il y a tout juste 16 ans, le 5 septembre 1997, s'éteignait Mère Teresa. La fondatrice des missionnaires de la charité est morte à Calcutta, centre de son œuvre auprès des plus démunis. Le rayonnement de sa charité, son charisme immense, reste très populaire dans le monde entier. Mère Teresa, dont on fêtera bientôt un autre anniversaire, les 10 ans de la béatification, le 19 octobre 2003, par Jean-Paul II.
If you stay together, you will love one another as God loves each one of you.
Le chapitre général de l'ordre des Augustins réuni à Rome a élu l'Espagnol Alejandro Moral comme prieur général. Il succède à l'Américain Robert Prévost qui n'a pu se présenter après avoir accompli 2 mandats de 6 ans. Le père Alejandro Moral était responsable du secrétariat Justice et Paix des Augustins depuis plusieurs années. Cet ordre des Augustins a été fondé en 1244. Il compte actuellement près de 2800 membres. Il est issu de l'union de groupes d'ermites inspirés de la règle de Saint-Augustin. Son siège international se trouve non loin de la place Saint-Pierre à Rome. Ce jeudi matin, le pape recevait sa sainteté Morane Baselios Martoma Paulos II, le catholicos de l'Orient et métropolite de l'église orthodoxe Syro-Malankar, l'une des deux principales églises de l'Inde. François a rendu hommage à son hôte en soulignant la richesse de cette église née à la suite de l'apôtre Thomas et les liens qui unissent encore ces chrétiens lointains à Rome. La confession de foi de Thomas au Christ, qui proclame la divinité de son maître, fait le cœur de la foi qui est lieu de rencontre des deux églises, a souligné le souverain pontife. Cette foi nous pousse à continuer et à intensifier l'engagement œcuménique, la rencontre et le dialogue en vue d'une pleine communion, a expliqué François au métropolite. Rappelant 30 ans de dialogue entre Rome et l'Inde, le pape a souligné que les étapes de ce dialogue œcuménique étaient importantes pour regarder l'avenir avec confiance et sont un élément essentiel de la culture de la rencontre qu'il faut sans cesse promouvoir. Les Syro-Malankars sont des chrétiens méconnus en Occident comme de très nombreux autres chrétiens qui vivent en Asie, des chrétiens qui vivent parfois dans l'anonymat comme c'est le cas au Népal. Depuis la révolution maoïste en 2006 et l'abolition de la monarchie hindoue, le pays connaît une grave crise politique et constitutionnelle. Dans ce pays à très grande majorité hindoue, les chrétiens seraient malgré tout au nombre de 2 millions. Ce chiffre invérifiable rend cependant compte d'une véritable explosion du christianisme depuis la révolution. Parmi ces chrétiens, beaucoup de protestants et au moins 8000 catholiques. Des chrétiens qui avaient salué l'instauration d'une république laïque mais qui ont bien vite déchanté. Victimes de discrimination et d'oppression de la part de l'État et de groupuscules extrémistes hindouistes, les différentes églises craignent pour la liberté religieuse. Réécoutons Marie-Sophie Boulanger, journaliste à l'agence d'information Église d'Asie. Elle revient sur l'identité de ces chrétiens du Népal.
Depuis que la liberté religieuse a vraiment été proclamée, il y a eu une espèce d'explosion des religions autres que l'hindouisme, qui jusqu'à présent ne se montrait pas trop. Et ça a commencé à vraiment affoler la population hindoue, qui a vu des conversions en masse, notamment de chrétiens. Et face à ça, il y a eu la crainte que le pays ne disparaisse, hein, parce qu'il y a une notion d'hindouité qui fait partie de l'identité nationale, en fait, au Népal. Et là, il y a commencé à avoir des affrontements, des violences. C'est là où la constituante aussi a commencé à évoluer. Beaucoup d'hindous qui étaient présents parmi ces députés ont demandé en 2011 qu'on vote une loi anti-conversion. Donc ça remettait complètement en question la laïcité de l'État. C'est-à-dire qu'ils voulaient restaurer une religion d'État, l'hindouisme, et punir très gravement tous ceux qui risquaient de porter atteinte à cette religion ou à se convertir ou à vouloir convertir les autres.
Les chrétiens font état de discrimination à leur encontre, venant autant de l'État que des groupuscules hindous, on va dire, extrémistes.
Oui, les chrétiens, au début, ont pensé qu'avec l'arrivée des maoïstes au pouvoir, les choses allaient changer. Et c'est vrai que ça a commencé par une espèce de vent de liberté. Bon, ils ont dû déchanter assez rapidement parce qu'en fait, les maoïstes étaient quand même foncièrement assez anticléricaux. Donc, ça s'est traduit par des fonctions financières ou alors le fait que lorsque les chrétiens demandaient, par exemple, à pouvoir enterrer leurs morts, parce qu'il n'y avait pas de cimetière pour les chrétiens. Donc, ils avaient menacé de défiler à Katmandou avec les cadavres en disant « on les enterre où ?» Il y a les écoles privées qui ont été fermées. Il y a des subventions qui sont accordées à toutes les autres religions, sauf les chrétiens. Des interdictions de construction d'églises. Donc ça, ce sont des vexations et puis un manque de réponse de la part du gouvernement, surtout quand il y a des menaces graves envers les chrétiens, des menaces de mort. Ils ne répondent pas, ils n'envoient pas la police, ils ne prennent pas les dépositions. Et donc parallèlement, ce qui est encore plus grave, ce sont ces groupuscules, surtout hindouistes, qui, eux, ont fait des attentats dans des mosquées, mais surtout des églises. Donc c'est pas juste une petite crainte.
Des propos recueillis par Manuela Afiji. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.